c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour, bienvenue à tous dans Nos Adorés. Je suis Julie Sigel et on va tout de suite ouvrir cette émission sur l'alcool, Chin. Avec un petit entretien que j'ai eu avec deux jeunes ados que j'ai rencontrés dans la rue.
Je vais arrêter, c'est là où j'étais, et donc tout le monde fume, tout le monde le sait.
Donc l'alcool, en fait, vous dites que c'est quelque chose qui est plus addictif que n'importe quelle autre drogue, c'est ça que vous me dites ?
Le festival où j'étais, donc, sachant que c'est un festival de reggae, donc tout le monde fume cannabis, etc. Ils faisaient des prospectus de prévention, et dans tout ce que j'ai lu, ils disent que l'alcool, en soi, c'est limite plus dangereux, en fait, parce que c'est un truc qui est légal, du coup, déjà de base. Et en plus de ça, il y a beaucoup plus de risques, certaines personnes qui abusent, en fait, que d'autres drogues.
Et le fait que ce soit présent partout et complètement banalisé, en fait, non ?
C'est totalement ça, en plus, surtout qu'on a, en fait, presque tout le monde boit, en fait, même les parents, genre, on est incité, surtout. Enfin, encore, mes parents, ils fument pas, donc j'ai pas incité à fumer, mais genre, l'alcool, c'est beaucoup plus présent, en fait. Ouais. Genre, on peut, dans les bars, partout, c'est ultra facile d'en acheter, donc... Je pense qu'ils devraient peut-être pas limiter ça, mais ils devraient trouver un moyen pour éviter que ça soit trop accessible quand même.
Vous pensez qu'il n'y a pas assez de prévention par rapport au danger et au risque de l'alcool ?
Ah, si, si, il y en a. Si, si. Bah, si, les trucs de la route.
Ouais, il y en a, mais c'est pas. C'est peut-être pas bien fait, je trouve. Enfin, genre, personnellement, je vois pas vraiment de prévention, on me dise vraiment les effets de l'alcool.
Ça marche quand on vous fait peur par la prévention, justement ? Parce que ça, c'est un truc qui marche beaucoup aux États-Unis pour la cigarette, l'alcool et tout ça. Ils font des pubs un peu monstrueuses, vous les avez déjà vues ?
Ouais. Bah, c'est le but, c'est que ça choque pour que, après, derrière, on calme les consommations.
Et, les
quoi.
Ouais.
Et vous avez un rapport à l'alcool qui est simple ou vous pensez que vous êtes des fois incité peut-être par vos camarades ou j'en sais rien ?
Non, du tout, je bois pas d'alcool.
D'accord. C'est parce que ça vous plaît pas ? Vous avez déjà essayé ? Vous avez pas aimé l'effet ? Ou juste par conviction religieuse ? Ou je sais pas
Non, du tout, j'aime pas du tout le goût en fait.
D'accord.
Ouais, j'aime pas du tout.
C'est pas l'effet en fait qui va pas vous plaire ? Parce que souvent, on s'étonne des gens qui consomment pas d'alcool, genre « Ah bon, mais pourquoi ?» Enfin, comme si c'était finalement un défaut de pas consommer d'alcool. Et ça, c'est vrai à l'âge adulte aussi, en fait. Vous l'avez déjà constaté, vous ?
Non, pas vraiment.
Oui, oui.
Bah, on vous fait presque culpabiliser, en fait. « Allez, s'il te plaît, t'es
ouais,
pas marrant. »
Des fois, il y en a, ils incitent un peu trop. Mais après, les effets, je trouve, c'est... En vrai, je trouve aussi le truc avec toutes les drogues et tout, enfin même la cigarette en soi. Genre, personnellement, je trouve ça assez pas convivial, mais en vrai, quand on est en soirée, qu'il y a à boire, ça apporte toujours un truc. Enfin, tout le monde boit en même temps. Il y a, je sais pas, même les effets. Genre, ça peut être pas drôle, mais genre c'est, je sais pas, c'est convivial. Et on passe un bon moment en fait.
Du coup, c'est un rituel qui peut des fois en fait créer des liens entre les gens, désinhiber un peu. Tout ça, ça apporte quoi à la relation.
Ouais, c'est... Par exemple, ma pote, par exemple, avant, genre, elle, plein de potes, c'est par exemple, genre, quand on va chez des gens et qu'on propose, vas-y, tu veux fumer une clope, et du coup, ça qu'on vient, on commence à parler, et finalement, on crée des liens, donc
ouais, c'est ça,
c'est un mal
ça
pour un bien, en fait.
Certaines barrières.
Ouais, voilà, c'est ça, ça connecte les gens.
Donc, vous avez le sentiment qu'on vous a déjà poussé à boire dans des soirées, qu'on vous dit t'es pas marrante parce que vous buvez pas ?
Non, pas vraiment, on me force pas vraiment à boire, mais oui, après je reçois des remarques comme pourquoi est-ce que tu fumes pas, enfin t'es pas marrante. Et après, les gens tout de suite ils ont une image de la personne parce qu'elle boit pas.
Ouais, ça c'est intéressant et c'est un gros phénomène de société parce qu'il y en a beaucoup qui finalement après tombent dans des addictions et nous disent avoir commencé pour faire comme les autres, pour pas décevoir, pour pas. Voilà, ça c'est intéressant. Ok, bah, moi je pourrais encore aborder.
Alors donc, comme on vient de l'entendre, Lucas. Peut-être que... Mais je suis bête, moi. En fait, faut peut-être que, peut-être
bonjour,
que je te dise bonjour. Non, mais je sais pas, quand on était parti dans notre écoute, là, moi, je continue et hop, j'embraye. Donc, bonjour, Lucas Borda.
Bonjour, Julie.
Donc, vous êtes... Enfin, tu es avec nous pour la deuxième fois. On avait déjà entendu... t'avais déjà entendu parler la semaine dernière de la cigarette. Et donc, cette semaine, on va parler de l'alcool. Donc, tu peux juste nous rappeler rapidement ce que tu fais dans la vie, Lucas.
Oui. Donc, je suis psychologue. Je suis spécialisé en thérapie cognitive et comportementale. Et je suis aussi chargé d'enseignement à la faculté de Strasbourg sur la thérapie des addictions, en fait. Comment traiter les addictions sans médicaments.
D'accord, merci beaucoup. Donc je reprends. Oui. Donc dans ce petit entretien que nous avons écouté à l'instant, on nous parle effectivement du fait de boire beaucoup. Par exemple, là, la jeune fille nous disait dans un festival, tout le monde buvait pendant plusieurs jours, etc. Est-ce que finalement le binge drinking, dont on entend pas mal parler en ce moment, c'est un peu devenu la nouvelle norme chez les ados dans leur consommation d'alcool?
Oui, tout à fait. On est plus sur des alcoolisations massives comme ça. Mm-hmm. Et ça en est presque même un objectif, en fait. C'est devenu un objectif de se suralcooliser chez les jeunes aujourd'hui, avec tout un tas de mélanges d'alcool différents et un peu nos limites, quoi. Ce côté très positif à sortir de ce cadre-là.
D'accord, c'est-à-dire c'est vu positivement comme une sorte de défi à relever, c'est quoi l'objectif ?
Ouais, c'est vraiment associé à un aspect très positif, c'est cool en fait d'oser boire autant.
D'oser ne pas doser.
Exactement, ça c'est bien dit ça. Et ouais, c'est cool aujourd'hui, c'est assez cool, les gens qui vomissent ils sont cool. On est vraiment
de mon
dans
temps,
des.
C'était pas ça.
Ben voilà, c'est ça et ça change, on est dans des représentations très positives, un peu à cette. État très limite qu'on peut avoir, donc très dangereux possiblement, sur les alcoolisations massives.
Et l'addiction, elle survient plus facilement quand on a des comportements de ce type-là ?
Pas dit. C'est pas dit parce qu'on est vraiment sur de l'occasionnel, normalement.
Oui.
Donc, on n'est pas forcément dans un processus addictif tout de suite. Si c'est très situationnel et que c'est que de temps en temps, pas forcément en tant qu'addiction, on est vraiment dans ce qu'on appelle des usages en fait à risque. C'est des usages à risque, voire des usages
nocifs. Oui,
c'est-à-dire
qu'ils peuvent avoir des conséquences immédiates sur la santé.
Voilà.
Ou l'accident, ou enfin des choses.
Exactement. Vraiment, ouais. Et c'est limite plus dangereux dans le sens où les conséquences sont immédiates.
Oui.
Et potentiellement très dangereuses aussi, quoi.
C'est vrai que ça, je pense, il est peut-être bon de le dire, parce qu'on ne se rend pas réellement compte. Là, on est là pour parler des addictions, mais bon, tu peux aussi tomber d'un immeuble, hein, parce que tu as trop bu.
Exactement, voilà, ouais, c'est ça.
Oui, effectivement. Donc,
L'alcool est quand même la première cause de violence au niveau de toutes les drogues confondues,
ouais.
Par exemple.
Ça ne me surprend pas. Mais c'est un peu un rituel de passage, non ? De s'alcooliser, celui qui ne s'alcoolise pas, il est un peu considéré comme outcast ou...
C'est ça.
Ouais.
Ces tendances, c'est comme chez les plus adultes, les plus anciens, ne pas boire de vin à table, c'est connoté négativement. Tu vas bien boire un peu, enfin ça va pas te tuer. Il y a vraiment ces représentations positives à boire de l'alcool. Donc que ce soit juste un bon verre de vin ou que ce soit beaucoup d'un coup, il n'y a pas grande différence dans la représentation positive.
C'est très français ça, non ?
Ouais, en France on est très très centré sur la gastronomie et du coup l'alcool, notamment le vin, quoi.
À table.
La bière aussi.
Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'effectivement, les adultes se disent que boire à table, c'est pas du tout la même chose que boire en soirée. On mange trois bretzels et on va boire 15 vodka.
Exactement.
On en discutera une autre fois, peut-être. Donc, à quel âge le jeune boit-il de l'alcool pour la première fois, à peu près, quoi ? Et qu'est-ce qu'on sait des circonstances de cette première expérience ? J'imagine qu'encore une fois, comme avec le tabac, c'est pas tout seul dans sa chambre, sinon c'est vraiment flippant pour le coup. Non.
Ça peut être tout seul.
Ah.
Dans le sens où.
Se préparer au combat.
Exactement.
Ah oui.
Mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est que j'ai beaucoup entendu de jeunes me dire je voulais tester avant. Parce qu'ils avaient un peu peur, en fait, d'aller à des soirées et de ne pas savoir ce qui allait se passer. Et donc, cette appréhension, ils l'ont travaillée en amont, en fait, en essayant tout seul. Et la curiosité du truc. Mais c'est clair que l'élan du groupe fait que la plupart se font lors de soirées ou de moments où. Où on veut. Mais demander à n'importe quel ado, même de collège, c'est quoi une bonne soirée, rien que ces termes-là vont être associés à alcool ou cannabis. Ah
oui. Est-ce qu'il y a... C'est des comportements genrés ? Est-ce qu'il y a une différence de comportement fille-garçon dans la façon de consommer de l'alcool ?
De moins en moins. On est vraiment aujourd'hui sur une égalité des sexes.
Ah,
à ce niveau-là.
Bah voilà, on a obtenu l'égalité, enfin.
Pas forcément pour le meilleur truc, mais quand même. C'est de plus en plus démocratisé, voire même aujourd'hui banalisé, qu'avant, un homme ou un garçon qui buvait trop, c'était un peu le rebelle du groupe. Quoi. Mmh. Aujourd'hui, plus du tout, comme c'est dans le groupe qui fonctionne comme ça, les filles et les garçons sont assez équitables là-dessus.
D'accord. Donc, quand doit-on s'inquiéter de cette consommation ? Parce que j'imagine que de dire qu'on va empêcher nos ados de consommer de l'alcool, c'est même pas la peine de l'envisager. Et d'ailleurs, c'est peut-être même pas indiqué.
C'est pas nécessaire, ouais, tout à fait.
Voilà. Exactement. Donc, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Ou quand est-ce que l'ado qui nous écoute, là, tout de suite, doit se dire « Ouh là là, je suis dans une pathologie, là. Je... »
Ben, de deux choses l'une, c'est que si les alcoolisations sont massives, il faut s'inquiéter tout de suite, parce qu'il peut toujours y avoir un accident. Donc, aller au-delà d'un certain seuil, de toute façon, c'est tout de suite dangereux.
D'accord.
Il faut connaître ce seuil où on n'est pas... je ne parle pas du seuil légal, je parle du seuil où si on ne conduit pas, par exemple, en tant qu'ado, ou qu'on ne prend pas son scooter ou sa moto, c'est un seuil vraiment où là, on ne va pas se mentir, il faut se connaître pour ne pas faire de bêtises ou d'erreurs. En sachant que l'alcool désinhibe, il ne provoque pas des comportements, mais il désinhibe. Donc, si on a des tendances un peu à la dépression ou des tendances un peu à la violence, faut aussi s'en inquiéter pour connaître cette limite où on ne va pas trop loin, parce que c'est aussi ça après qui fait que... Pour l'addiction en elle-même, c'est quand on n'arrive pas à s'en empêcher. Quand on n'arrive pas à s'empêcher de boire, quand on n'arrive pas à passer un bon moment sans ça, et que surtout on commence à avoir des effets très négatifs sur la soirée en elle-même, mais aussi sur le long terme. Donc un sentiment de manque, du mal à trouver des amis, un isolement, voilà. Tous les effets négatifs qui vont apparaître possiblement à cause de ça, c'est toujours un signal d'alarme en fait.
Oui, puis on a tous eu ce copain là qui devient violent quand il a bu, mais qu'on est obligé de contrôler un peu. Ah, il est où Gaston ? Oh là là, attention, il est parti là-bas, il va nouveau provoquer une bagarre et autres. Je pense que Gaston, c'est bien de lui en parler le lendemain et vraiment peut-être qu'il prenne conscience, même si ce prénom, et je l'avoue, pas forcément bien...
Il est sorti, il est venu de loin celui-là.
J'ai un historique avec, je raconterai une autre fois, ou hors antenne. Donc oui, c'est peut-être bien ce copain de lui dire, écoute, moi je peux pas être dans toutes les soirées contrôlé où tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Ça c'est important parce qu'on a souvent des copains un peu infirmiers comme ça, dans les groupes. Tout le monde a un peu son rôle.
C'est ça.
C'est chouette d'en parler entre copains, les ados, parlez-en, dites-lui à Gaston ou autre que vous en avez un peu marre d'être là, de faire... voilà,
et si c'est carrément tout le groupe qui peut lui dire qu'il a été chiant en soirée et que il a vraiment cassé l'ambiance avec ça, ça peut vachement aider aussi pour qu'il y ait ce phénomène où c'est pas cool non plus d'aller aussi loin.
C'est ça, c'est intéressant. On ne va pas aller jusqu'à l'intervention à l'américaine, mais ça a du sens, je pense, discuter en groupe de ce genre de choses. Moi, les ados avec qui j'ai discuté pour préparer cette émission ont presque tous dit que l'alcool les aide à se sentir en phase, justement, avec les attentes du groupe lors des soirées. Est-ce que vous pouvez expliquer... Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Se sentir
à part désinhiber, ça, oui ?
Mais en fait, c'est que ça. Dans le sens où se sentir en phase avec les attentes du groupe, ça veut dire que si on est désinhibé, on réfléchit moins. On n'essaye pas de contrôler ce qu'il faut faire ou dire pour être intégré ou pour se marrer. Sort ce qui sort, mais comme tout le monde est désinhibé, peu importe ce qui sort, c'est drôle et c'est en fait c'est partagé. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui fait que quand on boit, on réfléchit moins, notre cerveau il se ralentit et du coup on est beaucoup moins stressé, gêné et donc c'est beaucoup plus fluide dans le groupe et tout le groupe fonctionne comme ça.
Ouais. D'où la difficulté en fait d'être celui qui ne boit pas dans le groupe. Hein.
Ouais, et ce qu'on oublie souvent c'est celui qui boit dans un groupe qui boit pas. C'est que c'est pas plus facile à vivre pour lui non plus.
Pourquoi tu me regardes
comme ça ? Non, j'accuse personne. C'est juste qu'il faut aussi se dire que la personne qui va boire, qui va être désinhibée, si les autres ne sont pas désinhibés, ça ne servira strictement à rien. Il sera rejeté du groupe. Donc c'est le fait que ce soit partagé qui fonctionne. Si personne boit, c'est mieux que si la moitié boit et l'autre non. Si tout le monde boit, c'est mieux techniquement pour le groupe que si personne ne boit. En fait, c'est une désinhibition qui fait qu'on se lâche beaucoup plus. Mais c'est plus révélateur de ce qu'on est, dans le sens où on est plus en phase avec ce qu'on est, on se pose moins de questions dans ce sens-là. Mais je pense et j'espère qu'on peut y arriver sans alcool, se désinhiber sans alcool, ça c'est sûr.
D'accord. T'as des méthodes ?
Oui.
Merci. Donc, un ado qui nous écoute et doute ou sent qu'il ne maîtrise plus sa consommation, quelle est la marche à suivre ?
Déjà, si possible, qu'il en parle à ses parents, si possible. C'est vraiment l'idéal, comme il est mineur, toutes les démarches derrière seront plus simples. Si jamais il n'ose pas, il ne veut pas ou ça se peut pas, il existe ce qu'on appelle la maison des adolescents, par exemple. Il y en a à Strasbourg, il y en a à Mulhouse, la maison des ados, les MDA. On peut y aller sans son parent. Et il y a une prise en charge pluridisciplinaire avec des éducs, des psys, des psychiatres, etc. Donc c'est pas mal. Après, tout ce qui est à partir de 16 ans, centre médico-psycho, c'est aussi accessible. Mmh. Et derrière, ils feront le travail pour que les parents soient quand même intégrés aussi.
Ah, c'est eux qui vont aller prévenir les parents avec l'accord de l'ado.
Avec l'accord toujours. Et puis, le but, c'est que si on a un problème, si on essaye de le cacher, ça, tout sera plus compliqué. C'est faisable, mais ça va être plus compliqué.
Bien sûr. Donc, comment ne pas paniquer en tant que parent quand on détecte ce type de conduite chez son ado? Parce que, oh là là, c'est dur ça.
Ouais, après, est-ce que ça dépend forcément de l'âge et des conditions, oui. On est d'accord. Mais ça dépend aussi de la conduite. Est-ce que c'est de l'occasionnel, du festif? Et dans ce cas-là, est-ce que la société ne veut pas qu'on l'accepte malgré tout? Si vraiment c'est des conduites dangereuses, type alcoolisation massive ou récurrente, type plus addiction, j'aurais tendance à dire aussi à en parler sans jugement à son enfant, quoi.
On n'est jamais tout à fait préparé à ça, j'imagine.
Ouais, je pense pas. Il y a l'aspect émotionnel quand on aime quelqu'un qui... La peur peut vite prendre le dessus sur l'analyse en fait, de la situation. Et ça, on le voit chez beaucoup de parents. Beaucoup de parents ont tendance à utiliser la peur et leur stress pour justifier leurs actes en disant « mais c'est parce que je t'aime ou c'est parce que j'ai peur pour toi que... » ça,
ah,
c'est...
Oui. Ouais. Je m'entends ouais. dire des choses comme ça. Tu effectivement, vois, je crois qu'on est nombreux à dire ça.
C'est instinctif. Et on utilise notre peur pour justifier des comportements. Alors que là, il faut garder vraiment son sang-froid,
oui.
dans le sens où plus on va confronter quelqu'un à son addiction, admettons, plus il va y avoir un phénomène de réactance en fait, psychologique. La personne va résister,
bien sûr.
Juste par principe. En fait. Mmh. C'est comme si quelqu'un nous tire le bras, par réflexe, on va le tirer dans l'autre sens pour se dire « mais tu ne me tires pas comme ça sans que je sois préparé ». Donc il faut réussir à être dans une analyse tête froide plutôt que dans l'émotionnel tout de suite. Quoi.
Ouais. Et à l'inverse, si l'ado se rend compte que son adulte référent a un comportement addictif, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que ça arrive, hein. Il y a beaucoup d'ados qui constatent ça et qui sont un peu désemparés.
Ouais. Bah, je suis un peu pro-enfant-ado, donc j'aurais tendance à dire qu'il faut d'abord se préserver soi. C'est pas son rôle de faire quoi que ce soit déjà, donc pour se préserver lui, c'est des fois prendre un peu de distance ou surtout se protéger s'il y a besoin. Après, si l'enfant veut aider son parent ou l'ado, le but c'est de pouvoir aussi en discuter en sachant qu'une addiction est une pathologie aujourd'hui. On est coincé dans une addiction, c'est donc ça. Il faut toujours se dire qu'il y a des raisons. Ça veut pas dire qu'on accepte, ça veut dire qu'on comprend. C'est pas la même chose entre accepter et comprendre. On peut comprendre sans accepter, mais s'il veut aider, c'est plus sur ce plan-là, en sachant que c'est pas son rôle et qu'il est peut-être pas armé. On n'est peut-être pas armé à cet âge-là à faire quoi que ce soit d'ailleurs pour ça.
Ah oui, mais du coup, il devrait se tourner vers qui? Alors, vers un autre adulte de ouais, son entourage?
Tout à fait, ouais. Oui. S'il peut trouver quelqu'un de confiance à qui il peut en parler, c'est l'idéal. S'il veut vraiment aller dans quelque chose de plus sérieux, ça peut être le médecin, hein, le médecin généraliste, par exemple.
Sensibiliser le médecin de famille.
Exactement. Ouais. Dire, voilà, la prochaine fois que vous le voyez, il peut faire semblant, mais il boit beaucoup, bref. Transmettre l'information pour aider quelqu'un qu'on aime qui lui-même est coincé dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas en fait. Donc c'est pas une atteinte à la liberté si on aide quelqu'un qui est coincé.
Oui, voilà. C'est vrai, oui, c'est intéressant de le formuler comme ça. En France, la consommation d'alcool en fait elle est vraiment banalisée. C'est présent partout et ça fait partie un peu de... Je sais pas, ta bar mitzvah, on va t'offrir, on va te faire boire un petit coup parce que voilà, ça te fait entrer dans l'âge adulte. Cette banalisation, est-ce qu'elle empêcherait pas un peu l'ado de s'inquiéter de sa consommation? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Le fait que ce soit pas un sujet tabou, est-ce que...
C'est ça, que ce soit présent partout, dans tous les, je sais pas, dans toutes les séries, dans tous les films, sur les pubs, même si on fait voilà, la pub est encadrée quand même pour l'alcool, mais enfin, voilà, il y a des bars partout, les sponsors souvent aussi pour des événements même sportifs sont des marques d'alcool. Donc c'est un peu compliqué, non, de faire la différence entre ce qui est vraiment dangereux, pas dangereux.
Bah, c'est clair que vu notre société, il y a tout un tas de représentations positives, comme on disait avant, qui sont transmises. Donc, se dire c'est ma bar mitzvah et puis je peux boire un petit coup, c'est une représentation positive, c'est-à-dire qu'on se lâche un petit peu par l'alcool, en fait. Donc, c'est insidieux, mais c'est déjà intégré dans l'esprit. C'est que si je veux me lâcher, je peux boire un petit coup. Allez, on est vendredi soir, on est samedi soir, c'est une fête. Donc, en fait, tout ça, c'est des idées dites permissives. C'est des pensées permissives. Et il y en a beaucoup dans notre société au niveau de l'alcool.
C'est quoi? C'est une forme d'excuse qu'on se trouve, en fait, pour consommer?
C'est un argument, en tout cas, ouais. Après, ça sert souvent d'excuse quand on est dans une addiction. Mais c'est vrai que c'est un argument qui dit « là, je peux le faire ». Et en fait, on n'en a pas pour le cannabis, par exemple, des pensées permissives. Au niveau des adultes, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare que l'alcool, en tout cas. Mais c'est que la société qui nous conditionne un petit peu à ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a ces pensées permissives sur l'alcool, pas le cannabis ou l'héroïne? C'est la société aussi, c'est pas que la substance.
Mais oui, c'est ça. C'est que du coup, en fait, devenir accro, c'est beaucoup plus insidieux, peut-être qu'avec des substances illicites.
Ça peut, en sachant que, mine de rien, tout étant accessible aussi, ça facilite quand même la prise d'alcool. Acheter de l'alcool est quand même plus simple que de l'héroïne aujourd'hui.
Oui.
Normalement. Enfin, j'espère.
Oui, on ne peut que l'espérer, effectivement. Et souvent, bah, d'ailleurs, il y en a à la maison, hein, pas de l'héroïne, bien sûr, de l'alcool. Donc, c'est vrai que, voilà. On peut boire avec son ado?
Alors, je ne sais pas ce que ça va me valoir comme retour. J'aurais tendance à dire que oui, le sens où oui.
À quel âge?
Bah oui, c'est un peu
qu'on se réjouisse tous, là, pour se pinter la ruche avec notre ado.
C'est ça. On a tous eu un parent comme ça qui nous a dit, vas-y, goûte, essaye, il n'y a pas de souci. Je trouve que ça crée un lien dans
c'est les grands-parents, souvent, sans vouloir dénoncer.
Oui, comme ça c'est dit. Ouais. Mais non, je pense qu'il faut déjà que ce soit très occasionnel, que ce ne soit pas en grande quantité. Il faut juste savoir que ça sensibilise au goût, par exemple. C'est-à-dire que boire même un micro verre de vin va quand même habituer la personne à ce goût-là et va associer la substance au moment positif. Ah, oui. Donc on prédispose quand même à un usage plus poussé plus tard.
D'accord. Non, parce que j'ai l'impression qu'il y a certains parents que ça rassure de se dire « bon, bah voilà, je bois une bière de temps en temps avec mon ado, je suis cool ».
C'est pas faux.
Je me vois comme quelqu'un de cool parce que voilà, on boit une bière ensemble et comme ça au moins je sais qu'il sait que c'est possible.
Tout à fait.
Sans forcément en boire 10.
Exactement, ouais, ça peut être une très bonne sensibilisation aussi à quel usage en faire. Ça peut même être l'occasion d'en discuter et de limite refaire un petit topo sur comment lui il voit l'alcool dans sa vie à lui ou à elle et quelle place a l'alcool dans leur vie de jeunes aujourd'hui, ce qui a forcément dû changer par rapport à notre vision à nous. Ça permet voilà d'échanger, de pas en faire un sujet tabou, comme ça la porte est toujours ouverte pour en discuter si il ou elle a des questions ou des choses qui le tracassent sur ce sujet.
Et j'avais des parents, justement, qui m'avaient parlé du fait qu'ils avaient fêté Nouvel An avec leur ado cette année, que du coup, il y avait des ados d'un côté, des adultes de l'autre, etc. Et qu'au bout d'un moment, bon, tout le monde était extrêmement désinhibé. Et que le lendemain, c'est un petit peu difficile quand l'ado au petit-déj, je dis « Ah, oh, bah toi, papa, hier soir, t'en as dit des conneries. » Enfin, voilà. Comment on réagit, là? C'est grave ou pas grave d'être en état d'ébriété devant son ado?
Ouais. Bah, dans notre société, c'est pas grave, j'aurais tendance à dire que...
C'est rigolo.
C'est rigolo. Ouais. C'est comme ça que c'est perçu. Peut-être que dans 15 ans, ce sera une honte et une gêne totale. Ça dépend, je pense, vraiment de l'époque et de la société dans laquelle on vit. Aujourd'hui, c'est pas grave. Pas grave du tout, je veux dire. Faire semblant que l'alcool ou être désinhibé par l'alcool est grave, ce serait parce qu'on a une vraie volonté que ça le devienne, en fait. Mais aujourd'hui, en tant que constat, c'est pas grave, non?
Non. D'accord. Là, il y a le mouvement, le mouvement, tout de suite ouais. Les grands mots, tout de suite, j'exagère. Il y a un vrai truc. Ouais. Le dry January, là, qui est en train de se passer. On a déjà passé le mois de janvier, là, mais c'est juste pour dire que voilà, ça vient de s'écouler. Tout le monde s'est remis à boire, là, hop, on y va, un mois plus tard. Est-ce que c'est une bonne méthode pour tester sa dépendance en général? Je ne parle pas forcément que des ados.
Ok. Pour tester sa dépendance, non, pas forcément. Dans le sens où si on n'a pas d'addiction, si on a une addiction plutôt, si on arrive à faire le mois de janvier, on a déjà gagné. mais c'est plutôt un changement d'habitude. Et c'est sur les fameuses représentations là, dont on parlait tout à l'heure, c'est plus là-dessus que ça va venir être difficile pour les gens. C'est pas tellement la substance en elle-même, c'est le fait de ne pas boire en soirée, de ne pas pouvoir boire quelque chose qui est censé être festif. Et en fait, c'est un excellent exercice, moi je trouve, mais pour tout dans la vie, c'est que changer une habitude, changer un conditionnement, c'est extrêmement difficile et on ne se forme pas du tout à ça comme ça tous les jours. Mais c'est un entraînement excellent pour ce qu'on appelle la flexibilité psychologique. Donc ça permet d'être flexible mentalement et ça permet d'utiliser d'autres choses pour s'amuser ou pour gérer son stress. Et en fait, ça multiplie le nombre d'outils à en notre possession pour gérer nos émotions au final et pour créer des choses qu'on veut. Donc c'est un excellent entraînement. Mais dans la même logique, moi j'ai proposé à ma famille cette année de se donner un défi. Donc au lieu d'arrêter quelque chose qu'on fait, on rajoute quelque chose qu'on ne fait pas encore. Et donc on a une année pour essayer d'apprendre un nouveau truc.
Donc apprendre l'héroïne par exemple.
Alors ouais, si on est vraiment un peu foufou dans ma famille, on peut aller dans ce sens-là. Là on est plus sur des choses ludiques qui font marrer. Le but étant que dans un an, on se fasse un petit check-up et on voit qui a réussi à apprendre quelque chose de nouveau et de rigolo.
Ah, c'est chouette.
Donc c'est pareil, c'est aussi sous-tendu par cette notion de on n'est pas cloisonné.
De flexibilité.
Exactement.
Quoi. Très intéressant. Merci Lucas, c'est un super conseil. J'avais envie de donner moi juste l'adresse du site alcoolassistance.net. Qui est très bien fait pour les ados et qui permet en fait de tester un peu sa consommation, enfin de tester sa consommation, c'est-à-dire...
Voir où on en est plutôt.
Merci. C'est n'importe quoi cette phrase.
Sinon on y va, on boit en fait, c'est ça, on boit et on voit jusqu'où on arrive
jusqu'où
à boire.
Jusqu'où on arrive à lire le site. Ouais. Voilà, quand ça devient flou, c'est qu'on a trop
loin.
Oh là là. Bon, merci en tout cas Lucas pour cet échange intéressant. Merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine pour une troisième émission.
Avec plaisir.
Force de tester des produits, on a du mal à suivre. donc la troisième émission, c'est sur le cannabis. Je vous remercie. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir Lucas et merci encore.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,